Docteur Donald Fowler, contexte de l'Ancien Testament. Conférence 14, Sea Peoples. Symbole copyright 2024 de Fowler et Ted Rill de Brent. C'est le docteur de Fowler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 14, Peuple de la mer. Eh bien, nous sommes prêts à commencer une nouvelle cassette, et ce faisant, je voulais vous présenter la nouvelle en vous disant que, tout d'abord, j'ai bien plus, des aides visuelles bien meilleures que ce que je peux montrer. Toi. Nous avons eu un petit problème avec mon ordinateur au cours duquel les techniciens ont effacé pas mal de choses importantes pour mon enseignement que je ne peux pas vous montrer. Et donc, je ne vous ai pas montré cela plutôt parce que je viens de le trouver, mais j'ai pensé que je vous montrerai les denrées alimentaires avant de commencer le mouvement des peuples de la mer. Ce sont des images d'objets qui constituaient une partie si importante de leur monde et l'orge était vraiment roi parce qu'elle était très résistante, mais ils cultivaient aussi du blé. On voit les raisins. À gauche, nous avons une source de nourriture occasionnelle, la grenade. Nous disposons ensuite de sources alimentaires tout à fait majeures pour leur alimentation, les figues, les dattes et les olives. Bien sûr, ils ont mangé une grande variété de légumes, mais ceux-ci sont purement saisonniers et ils peuvent, pour la plupart, les conserver. Ici, dans le coin droit, vous verrez où il est question de figues sycomores. Les figues sycomores n'étaient pas réellement consommées par les êtres humains, sauf dans des circonstances extrêmes. Ils étaient utilisés comme nourriture pour animaux, et c'était donc au moins une petite idée du régime alimentaire dont ils disposaient. Et donc, avec cela, je suis prêt à aborder un sujet très important dans lequel presque tous mes visuels ont été perdus, du moins pour le moment, et je suis déçu de ne pas pouvoir vous montrer des choses plus significatives. C'est une déclaration audacieuse. Aucun autre événement, à l'exception de l'Exode, n'a eu de telles répercussions sur la monarchie israélite que le mouvement des peuples de la mer. Eh bien, je pourrais rendre la déclaration encore plus audacieuse et dire qu'il n'y a pratiquement aucun événement dans l'histoire humaine de cette partie du monde qui ait été plus important que ce qu'on appelle le mouvement des peuples de la mer. Ce n'est pas un terme, Sea People's Movement, qui est utilisé dans la Bible. Nous le tenons, je pense, de toute chose, des Égyptiens. Ainsi, ce mouvement des peuples de la mer avait une signification véritablement protéiforme pour le monde de la Bible. À ce jour, il existe une véritable confusion quant à la manière d'expliquer le plus grand transfert de peuples de l'histoire du monde. Et je pense que ce que je pourrais vous dire, c'est qu'après avoir étudié la Bible pendant 50 ans, l'archéologie a montré de plus en plus de lumière sur notre monde, de sorte que, vous savez, nous avons de bonnes chances de donner un meilleur sens aux choses qu'il y a 50 ans. Ironiquement et de manière intéressante, au sein du Sea People's Movement, nous ne semblons pas être allés très loin dans l'explication précise de comment cela fonctionnait. Donc, ce que je vais vous dire est en pleine évolution. C'est-à-dire que les gens disent aujourd'hui des choses contradictoires. Je viens d'en lire il n'y a pas si longtemps. Donc, l'événement lui-même, j'ai mentionné, c'est que c'est un défi d'expliquer précisément les raisons de ce transfert monumental de personnes. Il ne serait pas exagéré de dire qu'une grande partie de la Méditerranée orientale dans son ensemble et je devrais probablement modifier cette affirmation à la lumière de ce que j'ai lu était en transit, pas seulement à l'est, mais apparemment aussi loin à l'ouest que la Méditerranée centrale. Bassin. Voici donc le scénario. Depuis environ un siècle, nous avons des gens, un nombre incalculable de personnes, qui ont quitté leurs terres ancestrales vers d'autres endroits du monde méditerranéen, et bien sûr, nous aimerions savoir pourquoi ils ont fait cela. D'où viennent-ils? Où allaient-ils? Quel a été l'effet de ce mouvement? Il y a beaucoup plus de questions que de réponses claires. En fait, les migrations que l'on appelle le mouvement des peuples de la mer ont duré environ un siècle, à peu près une décennie ou deux, entre 1250 et 1150 environ. Ce qui se passe actuellement, c'est l'effondrement des anciens centres de pouvoir de Mycène, Minoa et les états vassaux anatoliens qui semblaient déclencher pratiquement l'effondrement du monde antique tout entier. Je vais donc tenter de vous montrer une nouvelle carte du monde dans laquelle je pourrai vous indiquer ces emplacements. Mycène était une grande civilisation qui dirigeait une grande partie de ce que nous appelons la Grèce, et elle a un certain lien, ce n'est pas clair, mais elle a un certain lien avec la Grande Guerre de Troie. Et avant le mouvement des peuples de la mer, les Mycéniens semblaient contrôler une partie importante du commerce dans la moitié orientale de la Méditerranée. Les Minoans régnaient sur la Crète et possédaient une civilisation importante impliquée dans le commerce en Méditerranée orientale. c'est là aussi un domaine où l'entité politique s'est effondrée. Ensuite, il y avait les États vassaux anatoliens sur la côte ouest de ce que nous appelons la Turquie. Nous suggérons donc qu'une grande partie des structures de pouvoir du monde antique se sont effondrées, ce qui a conduit à une réorganisation de la carte entière du monde antique. Je ne suis pas sûr de savoir comment le dire autrement que de dire qu'il s'agit du plus grand événement de l'histoire ancienne que je connaisse. Et donc, s'il est difficile, voire impossible, d'expliquer ce que c'était, il est encore plus difficile d'expliquer pourquoi cela s'est produit et ainsi de suite. De nombreux mystères permettant de résoudre l'identité des différents participants sont enfermés dans l'histoire de l'Anatolie. Et vous vous en souviendrez peut-être, j'ai utilisé ce mot et je ne vous l'ai jamais expliqué. L'Anatolie est le nom de cette région que nous appelons la Turquie. Cela ne vient pas des habitants de cette région dont vous vous souvenez peut-être qu'ils étaient soit des Assyriens, soit des Hittites. Cela vient des Grecs. Et cela signifie le lever du soleil. Ainsi, pour les Grecs, la région située à l'est de la Grèce était le pays du lever du soleil. Et c'est de là que vient le terme Anatolie. L'Anatolie n'est donc pas le nom d'une nation. Ce n'est pas vraiment le nom d'une région. C'est le nom de la région située à l'est de la Grèce d'où le soleil se lève. Mais c'est le nom que nous avons tendance à utiliser désormais car les entités politiques continuent de changer dans ce que nous appelons l'Anatolie. Une telle pression exercée sur l'empire hittite déjà affaibli par les Assyriens au sud et les Kashkas au nord semble avoir considérablement affaibli le grand empire impérial hittite. Avec l'affaiblissement de l'autorité centrale, les états vassaux semblent s'être effondrés sous la pression des forces internes et externes. Donc, l'un des... Eh bien, ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque le mouvement des peuples de la mer a été terminé, toutes les grandes puissances ont disparu à cause de cela, ou bien elles allaient bientôt disparaître. Et même l'Égypte, même si elle a survécu à l'impact immédiat de celui-ci, n'a plus jamais été la même après le mouvement des peuples de la mer. Cela a donc modifié la carte comme aucun autre événement que je connaisse dans l'histoire de l'humanité. L'empire hittite n'a donc pas été détruit. Je pense que ce que nous voudrions dire, c'est que cette région moderne que nous appelons la Turquie a implosé, il s'est effondré sur lui-même. Pour être puissant, les Hittites devaient contrôler les états vassaux occidentaux situés le long de la mer Égée. Et quand ils les ont perdus, progressivement, dans un laps de temps relativement court, devrais-je dire, le pouvoir du royaume hittite s'est tout simplement replié intérieurement. La chute de cet empire s'est accompagnée à peu près en même temps de l'effondrement du royaume mycénien, la grande entité politique de l'île de Crète ou des Minoans, comme nous disons. Ainsi, lorsque la fumée s'est retombée, toutes les grandes puissances ont disparu, à l'exception de l'Égypte, qui est bien sûr limitée. De sources égyptiennes, nous connaissons les noms de certaines tribus ou peuples qui ont participé à ce fabuleux mouvement de peuples. Donc, si nous sommes entre 1250 et 1150, alors vous vous souviendrez peut-être dans votre chronologie que nous serions en plein milieu du livre des juges. C'est devant la monarchie, en plein milieu des juges. Ainsi, l'un des éléments impliqués dans tout cela était le Chardana. Cela pourrait avoir lieu dans l'extrême nord de la Syrie. Apparemment délogés, ils ont pris la mer jusqu'à Chypre. Certains éléments apparaissent dans les inscriptions de Ramsès III, mais la plupart semblent être partis vers l'ouest. Maintenant, pour vous montrer où nous en sommes dans notre confusion, nous ne sommes pas sûrs du mouvement des peuples de la mer, donc il y aurait la Sardaigne, nous ne savons pas, au sein du Sea People's Movement, si les Chardanas sont venus de cette région-ci ou sont retournés dans cette région. Les Égyptiens nous disent qu'ils faisaient partie du mouvement des peuples de la mer, mais nous pensons qu'il existe un lien entre la Sardaigne et Chardina. Mais qu'il soit venu de Sardaigne ou qu'il en soit revenu, c'est dire à quel point nos informations sont pauvres. Une deuxième tribu mentionnée dans le mouvement des peuples de la mer est celle des Chekelèches. Leur patrie d'origine est inconnue, bien qu'ils semblent avoir été liés aux Cicales de Sicile. Bien que représentés dans les inscriptions de Ramsès, ils sont mieux liés à la première invasion libyenne au cours de la période de Merneptah. Nous avons donc eu deux grandes vagues du mouvement des peuples de la mer. Le premier était vers 1220 et l'autre vers 1190. Mais ce que nous savons, en regardant notre carte, c'est qu'ils sont associés à ce que nous appelons l'île de Sicile. Maintenant, en anglais, je peux vous rappeler que C, la lettre alphabétique C, peut se prononcer comme un S ou comme un K, comme dans cat. Ce que nous savons du langage dans l'Antiquité, c'est que le son C était toujours un K. Ainsi, alors que nous avons l'habitude de dire Sicile, c'était en réalité la Sicile. C'est tous ces tribus qui venaient de cette région, soit elles venaient de cette région et se déplaçaient vers l'est, soit, étant venues d'ailleurs, elles quittaient leurs exploits orientaux et revenaient ou se tournaient vers l'île de Sicile. Ainsi, comme vous pouvez le constater, vous pouvez repérer le mot Sicile dans le mot Chekelesh. Le Tresh ou Tursha provenait apparemment de l'Anatolie occidentale. Ils sont mentionnés dans l'inscription de Ramsès III mais ne constituent pas une force majeure. Ils peuvent être liés aux Étrusques de la Haute-Italie. Voici ce que nous savons sur la Tersha. En Haute-Italie, avant l'Empire romain, il existait une entité politique importante appelée Etrusca ou Tersha. La question que nous nous posons est la suivante, lorsque ce groupe de personnes attaquait vers l'Est, est-ce qu'ils venaient de Tersha ou sont-ils allés à Tersha? Eh bien, ce ne sont pas des choses auxquelles les preuves sont suffisamment claires pour répondre à l'heure actuelle. Les Lucas, probablement originaires de l'ouest de l'Anatolie, étaient utilisés comme mercenaires et avaient la réputation d'être de féroces pirates. Ils doivent être identifiés avec les Lucas du sud-ouest de l'Anatolie. Ils n'apparaissent pas après le règne de Merneptah. Donc, les Lucas, c'est hors de l'écran ici à droite, mais soit ils sont venus du sud-ouest de l'Anatolie, soit ils y sont retournés, soit les deux. Très difficile pour nous de le dire avec nos informations. La dernière des tribus mentionnées dans cette première inscription est celle des Ekvesh. La question se pose de savoir s'ils doivent être rattachés aux Achéois du texte Hittite ou aux Achéens de la Grèce proprement dite. En d'autres termes, quand on regarde le mot Ekvesh, il ne semble pas du tout qu'il soit lié à l'Achéen ici, mais étymologiquement, il est possible que Ekvesh et Achéa soient le même mot. Et s'il s'agit du même mot et du même peuple, alors les Ekvesh seraient venus ici de ce que nous appelons la Grèce et de ce que nous appelons l'Achaï. Achaï est une autre façon de dire Égée. Vous voyez, dans la prononciation polyvariante moderne de certains de ces sons alphabétiques, le G dans l'alphabet anglais peut être soit J, qui est, vous savez, dentaire, soit G, qui est guttural. Dans l'Antiquité, le G était apparemment guttural. Et donc Ekvesh et Achaï sont la même chose, ou pourraient être la même chose. Nous avons donc des possibilités intéressantes concernant les identités politiques, et pourtant nous ne pouvons même pas le dire avec certitude. Ainsi, ces tribus que j'ai énumérées pour vous sont des tribus qui sont mentionnées dans les annales du roi égyptien Merneptah, qui a vaincu le mouvement des peuples de la mer, ou du moins il dit qu'il les a vaincus. Les rois dans l'Antiquité, si vous les lisez attentivement, je ne connais pas un seul cas dans toute l'histoire ancienne où un roi ait perdu une bataille ou une guerre. Peu importe, même s'il était tué, ils auraient gagné la bataille. Donc, j'ai évidemment la langue coincée sur le côté de la joue. Il prétend les avoir vaincus. Les Égyptiens ont menti notoirement, donc il peut ou non. Mais cette liste date de 1220. Des décennies plus tard, à l'époque de Ramsès III, nous avons un autre groupe de personnes, et on leur dit qu'ils mentionnent les Danunas. La patrie des Danunas est inconnue. Peut-être venaient-ils du nord de la Syrie. Certains ont cherché à les relier aux Danites de renommée biblique, bien que cela soit extrêmement improbable. Et nous devrions probablement dire que même si Ramsès III mentionne les Danunas, nous ne savons pas qui ils étaient, d'où ils venaient ni où ils sont allés. Bref, nous ne savons rien d'eux. Le Jek venait peut-être de la Troade par Chypre. Ils s'installèrent en Palestine à Dor après avoir vaincu les portes de l'Égypte. Donc, je peux au moins vous montrer celui-ci. Donc, Dor, la Troade, est cette zone juste ici. La célèbre guerre contre Hélène de Troie, en partie historique, en partie mythologique. Eh bien, Troie est ainsi nommée à cause de la Troade, et c'est cette région ici au nord-ouest de l'Anatolie. Nous pensons donc que c'est de là que vient le Jek. Ce que nous savons, c'est qu'il était installé ici en Palestine, le long de la côte. Lorsque Ramsès III les vainquit, il les installa le long de la côte palestinienne, à proximité de cette région de Gaza et de Jopé. Les Ouaïchei, un autre groupe dont il parle, est un groupe dont nous ne savons tout simplement rien. Je suppose que je pourrais révéler ma frustration, peut-être d'une manière freudienne. J'ai dit totalement inconnu. Eh bien, si c'est inconnu, c'est inconnu. Il n'est pas nécessaire de l'appeler totalement, mais nous ne savons rien du Ouaïchei. Aujourd'hui les palissades, elles sont peut-être les plus intéressantes car elles semblent avoir donné leur nom à la Palestine. Je suppose que tout le monde dans le public a entendu parler de la Palestine. Eh bien, si vous regardez attentivement les consonnes de Palestine sont les mêmes que celles du mot palissade. Ainsi, l'une des tribus du mouvement des peuples de la mer, à l'époque de Ramsès, plusieurs décennies après Mer Nepta, l'un des groupes tribaux était la Palissade, et ce sont eux qui ont fini par donner leur nom à cette terre appelée Palestine. Nous les connaissons dans la Bible sous le nom de Philistins. Les Philistins, c'est ce qui s'est passé lorsque les Hébreux en ont fini avec Pélacède. C'est pourquoi ils ont donné leur nom au pays de Canaan. La Bible donne leur patrie sous le nom de Caphtor, qui est la Crète, mais cela signifie simplement que Caphtor était une étape avant leur déplacement continu vers le sud. Nous avons donc un groupe de personnes très célèbres. Nous ne savons pas avec certitude d'où ils sont venus. Eh bien, nous le savons. Nous savons sans l'ombre d'un doute que les Philistins étaient Égéens. C'est-à-dire qu'ils venaient des terres de la mer Méditerranée, mais nous ne savons pas lesquelles. Mais nous le savons aussi à leur sujet. Lorsque les Philistins ont été vaincus, ils se sont installés, avec les Tchékers, ici en Israël, dans plusieurs endroits que je peux vous montrer. Lorsqu'ils se sont installés ici, les Égyptiens les ont vaincus et les ont installés ici, le long de la côte, comme ceci. Ils étaient donc étendus le long de la côte. Nous savons que les Égyptiens les ont également installés ici à Béchiaen, au confluent des vallées du Jourdain et de la Galilée. Et puis ils se sont également installés ici à Amman en Jordanie. La Bible n'a donc qu'un seul mot pour eux. On les appelle Philistins. Mais en réalité, les Philistins représentent plusieurs tribus au sein du mouvement des peuples de la mer. Eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt chaotique. Si jamais vous étiez sur le campus de Liberty où j'enseigne ici, chaque été, c'est comme le Sea People's Movement. Les corps vont partout, les bâtiments sont démolis, les bâtiments sont rénovés, les bureaux sont déplacés et les gens errent en se demandant où ils sont et ne sachant pas où ils vont. Eh bien, c'est une sorte d'image du Sea People's Movement. Le chaos, et nous ne sommes même pas sûrs de ce qui a causé cela. Quelque chose a déclenché le mouvement de ces gens. Quelque chose d'inédit, en fait. Et même si nous ne connaîtrons peut-être jamais avec certitude l'identité des causes, nous pouvons probablement trouver quelques explications qui sont plus que de simples suppositions. Maintenant, quand vous ne savez pas ce qui cause les choses, vous devinez. Ainsi, l'une des explications de cet incroyable mouvement de population du bassin méditerranéen, a été devinée, et c'est pourquoi j'appelle cela la vision catastrophique. En d'autres termes, cela suggère qu'une sorte de catastrophe s'est produite et a déclenché le mouvement des personnes. Ceux qui soutiennent cette théorie ont tenté d'établir un lien, d'une manière ou d'une autre, avec la mystérieuse disparition de l'Atlantide. En fait, nous ne savons même pas si l'Atlantide a jamais existé. Mais cet argument soutient qu'une gigantesque catastrophe naturelle s'est produite et a bouleversé l'équilibre humain. Et tout le monde était en transit. C'était peut-être un gigantesque tremblement de terre. Vous savez ce que les tremblements de terre peuvent faire. Ils créent des tsunamis. Les tsunamis peuvent détruire les villes portuaires. Eh bien, si toutes les villes portuaires de cette époque étaient détruites par un gigantesque raz de marée, eh bien, qui sait? Le problème avec cette vision est qu'elle pourrait paraître attrayante si nous disposions d'une quelconque preuve cohérente de la nature de la catastrophe. Il n'existe aucune preuve archéologique ou géologique d'une telle catastrophe. Ainsi, même si cela reste une possibilité, nous devons admettre que nous n'en avons aucune preuve. Une autre vision est ce qu'on appelle la vision migratoire. Cette idée est qu'un nouveau mouvement de population bouleverse l'équilibre des pouvoirs. L'idée donnée dans le livre Penguin de George Roux sur l'Irak ancien se lit comme suit. Ce fut probablement l'arrivée dans les Balkans des tribus prolifiques et pugnaces, les Illyriens, qui repoussèrent les Thracophrygiens en Anatolie, où ils renversèrent le royaume Hittite puis chassèrent les Doriens, les Éoliens et les Ioniens dans la péninsule hellénique, là les îles de la mer Égée et les districts occidentaux de l'Asie mineure, où ils ont détruit l'empire mycénien ou égéen, la guerre de Troie. Eh bien, si vous avez cela, vous devriez enseigner le cours plutôt que moi. Voici ce qu'ils proposaient. Ici, dans les régions des Balkans, un groupe de personnes est venu de quelque part. Ces mouvements semblent souvent provenir de la steppe russe. Certaines personnes se sont installées dans les Balkans. Quand ils l'ont fait, cela a déplacé les gens vers le sud. Les gens qui ont déménagé ici vers le sud ont déménagé vers l'est. Les gens qui étaient à l'est ont déplacé les gens vers l'ouest et le sud. C'est un peu comme regarder un match de ping-pong, des allers-retours, des hauts et des bas, beaucoup de rotation, beaucoup de confusion. Quel est le score? Je ne m'en souviens pas. Le problème avec la vision migratoire n'est pas qu'il n'y a pas eu de migration, mais que les migrations étaient si nombreuses, si aléatoires et si multidirectionnelles que nous ne pouvons pas les recréer de manière cohérente à partir de l'archéologie. Cela ne me surprendrait pas que la migration ait joué un rôle, mais nous ne laisserions pas cela sans dire cela comme un point d'interrogation. Tout au long de l'histoire humaine de l'époque de l'Ancien Testament, des migrations ont eu lieu. Il ne s'est probablement jamais écoulé un siècle sans qu'il n'y ait eu une sorte de migration semi-importante ou importante quelque part le long du bassin méditerranéen ou au Moyen-Orient. Pourquoi cette migration a-t-elle entraîné l'effondrement total du monde politique de son époque? Si c'est la migration qui a déclenché tout cela, l'un des points d'interrogation est, pourquoi cette migration a-t-elle eu cet effet alors que tant d'autres migrations n'ont pas eu cet effet? Je pense que le meilleur point de vue est le troisième point de vue, celui du climat. Maintenant, en ajoutant simplement une autre consonne, nous pourrions faire un jeu de mots avec notre première vue. La première vision était celle d'une catastrophe. Eh bien, si je voulais essayer d'être drôle, j'aurais pu dire que la première vue était la vue culminante, car un point culminant gigantesque a provoqué l'effondrement. Mais cette vision n'est pas la vision climatique. C'est la vision du climat. Fondamentalement, ce point de vue soutient qu'il y avait une terrible sécheresse dans l'ancien Proche-Orient. La preuve en est citée dans le cas du roi égyptien Merneptah, qui envoya une énorme cargaison de céréales aux Hittites. Normalement, les Hittites étaient non seulement autosuffisants en nourriture, mais ils pouvaient également l'expédier. On sait que l'ancienne ville portuaire d'Ougari expédiait quelques 2000 mesures de céréales vers la Cilicie. Il existe donc de modestes preuves épigraphiques d'une pénurie alimentaire. Mais la preuve la plus importante vient de divers autres facteurs de mesure. Par exemple, des études très intéressantes sont en cours sur l'analyse des sédiments qui nous révèlent qu'il y a effectivement eu une terrible sécheresse qui a frappé la région. J'ai lu maintenant trois ou quatre articles différents à ce sujet. Il coule ces tubes au fond de la mer de Galilée. Il les enfonce simplement aussi loin que possible. Et puis il remonte le tube. Et puis ce tube est un référentiel parfait de la manière exacte dont les choses se sont installées et se sont construites sur le fond. Ainsi, ils peuvent le mesurer avec une précision scientifique incroyable en examinant ce qu'il y a dans les différents niveaux de sédiments. Et puis ils peuvent nous dire des choses importantes sur le pollen et les éléments présents dans l'air qui peuvent nous dire s'il y a eu un changement climatique. Et ce que toutes les études montrent et montrent depuis un certain temps maintenant, c'est que cette analyse des sédiments au fond de choses comme la mer de Galilée révèle qu'à l'époque où nous nous trouvons, il y a eu une sécheresse monumentale. Et ce n'est pas discutable. Il existe de nombreuses preuves à ce sujet. Il est en grande partie mis à jour. Je ne pense pas en avoir dans ma bibliographie ici. Mais c'est bien connu. Maintenant, évidemment, il y a une autre région où nous savons qu'il y a eu une terrible sécheresse. Il existe aujourd'hui une science, l'archéologie. L'idée de l'archéologie dans Indiana Jones est si absurde qu'elle est vraiment risible. Les archéologues d'aujourd'hui sont souvent des scientifiques. Il existe donc une forme très spécialisée d'archéologie appelée dendrochronologie. La dendrochronologie est une archéologie dans laquelle des spécialistes analysent les cernes des arbres. Ils peuvent le déterminer en étudiant la croissance ou le manque de croissance des cernes des arbres. Ils peuvent les étudier et dire comment les choses se sont passées grâce à la largeur de la croissance des cernes des arbres. En d'autres termes, s'il y avait des situations climatiques hostiles, l'anneau de l'arbre s'enregistrerait, mais il serait très étroit. Mais s'il y avait un bon climat pour les arbres, alors l'anneau de l'arbre serait là, mais il serait plus large. Eh bien, ces cernes d'arbres ou pins bristéels-cônes de la région hittite nous ont révélé des informations identiques à celles que nous avons apprises de l'analyse des sédiments. Il y a eu une période de plus d'un siècle pendant laquelle le changement climatique a eu lieu. Et il y a eu une terrible sécheresse. Cette sécheresse était apparemment clairement la raison pour laquelle il y avait un affaiblissement progressif des grandes puissances jusqu'à ce qu'elles deviennent si faibles, si lentement, mais si faibles, à coup sûr, qu'elles furent incapables de se perpétuer et qu'elles implosèrent. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous voulons dire que le changement climatique est induit par l'homme. Et je ne suis certainement pas un scientifique, croyez-moi. Et je n'ai aucune idée de la manière d'évaluer ce genre de réclamation. Mais ce que nous savons de l'histoire, qui remonte à des milliers d'années, c'est qu'il y a des périodes périodiques d'abondance d'humidité, puis des périodes d'abondance de sécheresse. Et nous sommes dans une période de sécheresse. Tout comme aujourd'hui, certains archéologues ont proposé des explications hypothétiques sur les raisons de cette sécheresse. L'une des plus courantes est que la population humaine a provoqué l'essor de la population humaine à cette époque et a provoqué le changement climatique. Et il existe deux théories principales, et les deux fonctionnent probablement main dans la main. Une théorie était qu'à mesure que la population humaine augmentait, elle déboisait de vastes régions du territoire. Et cette importante déforestation était le résultat d'un assèchement du climat. Eh bien, nous savons que la déforestation se produisait. Cela se produisait en Israël, cela se produisait au Liban, cela se produisait en Anatolie. Nous savons que cela se produisait. À mesure que la population explosait et que la prospérité humaine augmentait, les gens ont bien sûr besoin de bois. On chauffe avec, on cuisine avec, on s'éclaire. La déforestation était un fait. Nous ne pouvons pas dire si cela a conduit au changement climatique. Nous savons qu'il y a eu une autre catastrophe. Pendant des millénaires, les gens ont gardé leurs troupeaux comme animal principal. Ils élevaient des moutons. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que là où nous en sommes, la chèvre est devenue de plus en plus populaire pour de multiples raisons, dont la moindre n'est pas qu'elle est beaucoup plus dure que le mouton et beaucoup plus intelligente. Ainsi, il a été avancé que l'emploi généralisé des chèvres à la place des moutons est au cœur de tel ou tel facteur de ce problème et que parce que vous voyez ce que fait la chèvre, c'est qu'elle ne mord pas l'herbe, elle le tire, racine et tout. Cela a donc un effet terrible sur les sols marginaux, car là où le sol est marginal, il peut être très difficile pour la vie végétale de s'enraciner. Mais lorsque vous le déracinez, vous tuez la plante, vous tuez le terrain. Et donc cela a également été avancé comme un facteur expliquant pourquoi cette incroyable sécheresse s'est produite. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu une sécheresse, et il existe des preuves incontestables. Cette sécheresse est probablement le résultat du changement climatique, mais elle explique un facteur vraiment intéressant concernant le Sea People's Movement que je peux vous montrer sur cette carte. Une grande partie du mouvement des peuples s'effectuait par ce pont terrestre en direction de l'Égypte ou par des flottilles de navires traversant la Méditerranée, mais c'était le proverbial par terre et par mer. Autrement dit, une partie importante du mouvement des peuples de la mer se dirigeait vers l'Égypte. Or, vous le savez, l'Égypte a un climat sec. Ils ne reçoivent qu'environ 2 à 4 pouces de pluie par an, alors on se demande pourquoi ils se dirigeraient vers un endroit comme l'Égypte, où le climat est déjà hyper aride. Et la réponse est qu'en Égypte, peu importe qu'il pleuve un jour. L'économie et l'agriculture égyptienne ne dépendent pas de la pluie, ils dépendent des eaux de crue. L'Égypte était donc insensible à la sécheresse. Peu importe qu'il pleuve en Égypte et qu'il y ait suffisamment de nourriture en Égypte, et cela fournit une explication plausible de la raison pour laquelle les peuples de la mer se dirigeaient vers le sud par voie terrestre et maritime pour se rendre en Égypte parce que les Égyptiens avaient de la nourriture. Nous avons donc une explication plausible quant à la raison pour laquelle ils se dirigeaient vers l'Égypte. L'Égypte n'est pas sujette à la sécheresse. Laisse-moi juste appeler cette sauvegarde. Quand je dis que l'Égypte n'est pas sujette à la sécheresse, permettez-moi de dire ceci. Comme je l'ai dit, les Égyptiens ne dépendent pas de la pluie, mais ils peuvent connaître de mauvaises récoltes. Les mauvaises récoltes ne sont pas exactement des mauvaises récoltes comme en Mésopotamie ou en Syro-Palestine, mais elles peuvent avoir des mauvaises récoltes si le Nil ne déborde pas correctement. Ils peuvent connaître de mauvaises récoltes en cas de maladie ou d'infestation animale, mais ils ne connaissent pas de mauvaises récoltes à cause de la sécheresse, car ils ne dépendent pas de la pluie. Ainsi, même si des réponses définitives aux moindres détails ne seront jamais connues, il semble que quelle que soit la perturbation initiale, le mouvement s'est nourri de lui-même, délogeant progressivement un plus grand nombre de personnes. À mesure que l'ordre de l'autorité centrale diminuait, l'anarchie devint à l'ordre du jour. Il y a eu une augmentation spectaculaire du piratage et de l'anarchie générale. Cela a donc conduit à des changements phénoménaux que je pense, d'un point de vue biblique, étonnants. C'est ici que si vous avez sommeil avec tous ces trucs ésotériques de la Méditerranée ancienne du Proche-Orient, nous pouvons vous inviter à monter à bord car c'est très intéressant. Les résultats du mouvement des peuples de la mer. Il y a deux résultats majeurs et importants de ce mouvement. Premièrement, elle a détruit ou affaibli de façon permanente toutes les superpuissances du monde. Si vous regardiez une carte qui avait les noms des lieux, avant le mouvement des peuples de la mer, et ensuite vous regarderiez la carte après le mouvement des peuples de la mer, presque, eh bien, la grande majorité des lieux ont changé de nom. Les anciens royaumes ont disparu et de nouveaux royaumes apparaissent. Les vieilles villes ont été détruites, de nouvelles villes apparaissent. Cela a donc eu l'effet incroyable de changer la carte comme rien d'autre dans l'histoire des temps anciens. Deuxièmement, parce qu'elle a modifié la carte, elle a modifié le statut futur d'Israël. Vous voyez, avant le Sea People's Movement, Israël était entouré d'une entité très puissante composée de nations puissantes. L'Égypte au sud, les Hittites au nord. Mais aujourd'hui, ses pouvoirs ont complètement disparu ou sont considérablement affaiblis. Cela signifie donc qu'après 1150, Israël n'est plus entouré de superpuissance. C'est important, et voici la raison. En 1150, nous approchons de la fin du livre des juges. Vous vous souviendrez peut-être que dans Jagiz, les choses sont un gâchis catastrophique. Ainsi, si le mouvement des peuples de la mer a pris fin en 1150, le premier roi d'Israël fut Saül, qui fut roi en 1050. David est roi en 1010. Salomon devient roi en 970. Nous entrons dans la période appelée monarchie unie. C'est la période dorée d'Israël. C'est la seule fois dans l'histoire du monde, jusqu'au temps moderne, où cette petite zone que nous appelons Israël peut être politiquement puissante. Ainsi, à la suite de ce qui s'est passé, le fait de ne pas être entouré de superpuissances signifie que David et Salomon peuvent avoir un empire. David et Salomon peuvent avoir des royaumes qui s'étendent au-delà des 100 000 d'Israël, et ils peuvent mettre sous leur contrôle les royaumes environnants. C'est une période pendant laquelle Dieu peut en quelque sorte accomplir ses promesses faites à Abraham, David et Salomon. C'est donc la période de la plus grande prospérité d'Israël, mais ce n'est qu'une pause dans la façon dont les choses se passent. Car à la mort de Salomon en 930, en quelques années seulement, l'Assyrie se réveille. Nous avons donc ici une période où Israël se trouve dans une situation catastrophique, la période des juges. Ce que nous avons ici est une période de prospérité, et ce que nous avons ici est la fin de l'âge d'or. Avec la montée de l'Assyrie, nous sommes alors confrontés à la fin du pouvoir politique réussi d'Israël. Donc, ce que je suggérerais à nous, lecteurs de notre Bible, c'est que Dieu donne à Israël une fenêtre d'opportunité unique. C'est une opportunité dans laquelle vous pouvez voir la main des bénédictions de Dieu et remercier Dieu et le servir fidèlement, ou c'est une fenêtre où Israël peut rejeter Dieu, quand il peut se préoccuper de sa propre prospérité et ne pas voir qu'en effet Dieu les a bénis. Il s'agit d'une fenêtre temporelle unique dans toute l'histoire. Ce n'est qu'avec l'essor de l'Israël moderne, dans toute l'histoire de l'humanité, et jusqu'à l'essor de l'histoire moderne, qu'Israël a pu devenir une entité politique puissante. Et cela uniquement grâce à l'armement moderne. Voici donc la fenêtre unique de la bénédiction de Dieu, et je suis triste de dire que lorsque vous lisez le texte biblique, les Israélites ont raté leur moment dans le temps. Donc, le mouvement des peuples de la mer a été utilisé par Dieu, peut-être que Dieu a envoyé la sécheresse, je n'en ai aucune idée. Le mouvement des peuples de la mer a été utilisé par Dieu pour créer un environnement politique dans lequel Israël pourrait atteindre sa plus grande hauteur. Et cela signifie que lorsque cette fenêtre est fermée, Israël entre alors dans une très longue descente dont il ne se remettra pas avant l'ère moderne. Sur ce, je voudrais attirer votre attention sur nos notes de cours. Le problème des Philistins. D'accord. Le problème des Philistins. Vous vous demandez peut-être dans quel sens s'agissait-il de problème. Eh bien, il constituait un réel problème pour les Israélites parce qu'il était de meilleurs guerriers et de meilleurs militaristes. Mais ce n'est pas le problème auquel je fais référence. Le problème que nous avons avec les Philistins est qu'ils sont mentionnés dans la Genèse. Comme vous pouvez le voir dans nos notes, ils sont mentionnés dans Genèse entre 21 et 26, puis également dans Deutéronome 2. Maintenant, voici ce que nous savons. Les Philistins n'étaient pas en Palestine, ils n'étaient en Israël qu'après 11h50 environ. Alors, qui sont les Philistins dans la Genèse? Qui sont les Philistins dans le Deutéronome? Les Philistins sont une tribu égéenne, probablement un groupe de tribus, issus du mouvement des peuples de la mer. Comment se fait-il qu'ils puissent être mentionnés comme présents dans la Genèse? Si Abraham était en 2100 avant J.C., et le mouvement des peuples de la mer en 1100 avant J.C., comment pouvons-nous traverser 1000 ans comme ça? Il y a donc eu quelques tentatives plutôt faibles pour tenter d'expliquer cela. Je ne sais même pas si quelqu'un occupe ce poste, ou si je l'ai simplement inventé, je ne m'en souviens pas. Mais mon argument ici, premièrement, est que peut-être les Philistins ont adopté le nom du pays avant d'y entrer. En d'autres termes, peut-être qu'Israël s'appelait PLST, Pelézé ou un autre nom similaire. Peut-être que cela s'appelait ainsi avant les Philistins, et qu'ils ont simplement adopté ce nom. Eh bien, ce serait bien, si c'était le cas, cela résoudrait notre problème. Mais le fait est que, bien que cette zone soit mentionnée à plusieurs reprises, dans des textes remontant au troisième millénaire, elle n'a jamais été appelée PLST. Ce serait une coïncidence incroyable si le mouvement des peuples de la mer portait le même nom que Pélézé, le soi-disant nom proposé pour la terre avant qu'elle ne devienne Israël. Je pense que cette vision est pratiquement impossible. Une meilleure explication serait peut-être que les mots philistins dans ces différents chapitres de la Genèse sont un anachronisme ou une glose. C'est toujours une explication possible, même si elle va à l'encontre de l'historiographie normale de la Genèse. Voici ce que nous entendons par anachronisme. Vous vous souviendrez peut-être que le texte biblique, alors que chaque livre biblique, ou chaque chapitre biblique, a eu son origine à un moment donné, quelque part, par quelqu'un. On vous rappellera peut-être que tous les chapitres bibliques, tous les textes bibliques, ont dû être copiés, recopiés et recopiés au cours des millénaires. Ce que nous savons, c'est que lorsque les scribes copiaient et recopiaient le texte, ce que nous savons, c'est que parfois ils changeaient les choses. Parfois, ils ont commis des erreurs. Nous savons d'après 1 Samuel 13 que celui qui copiait le texte ce jour-là a omis un numéro. Il ne fait aucun doute qu'un certain nombre a été supprimé du texte original. Donc, ce que soutient ce point de vue, c'est qu'un scribe qui copiait le texte biblique a ajouté Philistin là où Philistin ne se trouvait pas à l'origine. C'est donc ce que nous voulons dire. Ce que cela signifiait, ce que ce point de vue signifierait, c'est que quelque chose comme ceci, que peut-être à l'origine il était écrit cananéen, je suis juste hypothétique, nous ne saurions pas ce que cela signifie, mais ensuite le scribe a décidé qu'il voulait changer cela, donc le scribe X était cananéen et écrivait en philistin. Eh bien, c'est possible. Dieu a inspiré les auteurs originaux. Il n'a pas inspiré les copistes. Il est donc possible que le copiste ait modifié le texte. Le problème est que nous n'avons aucun moyen de prouver que cela s'est produit. Aucune des versions ne prend en charge cela. Toutes les versions disent philistins. Donc, si cela s'est produit, nous n'avons aucun moyen de le prouver. Certains ont tenté de faire valoir, dans mon troisième point, qu'il représente une migration précoce de la mer Égée bien avant 1200 avant J.C. En d'autres termes, ce point de vue soutient que bien avant le mouvement des peuples de la mer, il y avait des Égéens qui avaient émigré de la région égéenne et vivaient maintenant en Palestine, et qu'ils étaient peut-être des marchands et des commerçants. Ainsi, ce point de vue soutiendrait que les Philistins dans la Genèse étaient des premiers Égéens, à ne pas confondre avec les Philistins impliqués dans le mouvement des gens de la mer. Cette vision pose également de sérieux problèmes. Nous avons presque fini avec cette cassette. Premièrement, les tribus appelées Pélézé ne sont même pas connues dans la mer Égée. Ils n'existent pas à cette époque. Cela fait donc partie de notre problème. Deuxièmement, les Philistins de la Genèse ne sont pas au bon endroit pour faire du commerce. Si nous regardons la carte, les Philistins de la Genèse sont dans le désert. Ils sont à Beersheba, la ville la plus méridionale du pays. C'est en plein milieu du désert. C'est donc un endroit terriblement étrange s'il était là pour faire du commerce. Troisièmement, et curieusement, le roi des Philistins à Guérar et à Beersheba, le roi s'appelle Abimélec, et Abimélec est un nom hébreu ou un nom sémitique. Cela signifie « père d'un roi » ou « mon père est roi ». Les Philistins dans la Genèse sont pacifiques. Les Philistins plus tard, les Égéens, sont très guerriers. Ce point de vue est donc peu probable, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, la première preuve dont nous disposons pour la présence d'Égéens dans la zone que nous appelons Israël date de 1370. Il est bien trop tard pour résoudre notre problème. Donc, si je devais vous dire ce que vous voudriez que j'entende à ce sujet, dans ma conclusion, ce serait que je ne pense tout simplement pas que nous ayons une explication plausible pour les Philistins dans la Genèse, et nous devrions probablement simplement dire nous ne savons pas. À moins qu'il ne s'agisse d'un anachronisme ou d'une glose de scribe, je pense qu'il est probablement préférable de dire que nous ne savons pas pourquoi nous avons des Philistins dans la Genèse. Peut-être qu'au fil du temps, nous obtiendrons une meilleure réponse à cette question, mais pour l'instant, cela nous donne un point d'arrêt, et nous reprendrons à la rupture avec les Philistins de l'après-Exode puisque nous pouvons dire quelque chose à leur sujet. Est intéressant. D'accord. Merci pour votre attention. Nous vous reverrons dans la prochaine cassette. C'est le docteur Dofauler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 14, Peuple de la mer.